prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Thème du message, Sosthène ou une histoire qui finit bien.
Alors, dans le Nouveau Testament, une première lecture dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 18, quelques versets que nous saisissons et qui vont faire l'objet de notre méditation. Alors, je répète, livre des Actes, chapitre 18, verset 12. Pendant que Gallion était proconsul de l'Achaïe, les Juifs se soulevèrent unanimement contre Paul et le menèrent devant le tribunal en disant « Cet homme excite les gens à servir Dieu d'une manière contraire à la loi ». Paul allait ouvrir la bouche lorsque Gallion dit aux Juifs « S'il s'agissait de quelque injustice ou de quelque méchante action, je vous écouterai comme de raison aux Juifs. Mais s'il s'agit de discussion sur une parole, sur des noms et sur votre loi, cela vous regarde. Je ne veux pas être juge de ces choses. » Et il les renvoya du tribunal. Alors tous, se saisissant de Sosthène, le chef de la synagogue, le battirent devant le tribunal, sans que Gallion s'en mette en peine. Voilà pour notre première lecture. Et puis la seconde, nous allons la faire dans 1 Corinthiens, chapitre 1er. Et verset 1er. 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 1er. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, saints par vocation, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit, le nom de notre Seigneur, Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Voilà, que Dieu nous bénisse à travers cette parole que nous allons méditer. Et le sujet du jour serait celui-ci. Il y a vraisemblablement beaucoup de gens qui, après quelques événements, que ce soit la maladie ou l'accident ou autre naturellement, ont vu leur vie totalement transformé. Et c'est l'histoire que j'aimerais vous rapporter aujourd'hui, partager avec vous, autour de ce personnage qui s'appelle Sosthène. Sosthène, ça veut dire, dans l'étymologie de son nom, ça veut dire, eh bien, tout simplement, puissant. Alors nous allons voir qu'il est passé d'une puissance à une autre. Et c'est vrai que son nom a toute une résonance que nous allons découvrir ce matin. Donc cet homme, Sosthène, son aventure est des plus instructives qui soient. C'est un personnage qui ne fait que passer dans l'Évangile. On en parle deux fois, vous avez remarqué. Et cette aventure force, à vrai dire, notre réflexion sur la signification des revers de l'existence et des expériences que nous sommes parfois amenés à vivre, douloureuses, et aussi des expériences amères. Mais je le répète et je le dis tout de suite, c'est que Dieu est capable de changer le mal en bien. Alors, les choses sont posées maintenant. Il nous est parlé, je le rappelle, deux fois de Sosthène dans la Bible, le livre des Actes et également la première épître aux Corinthiens. La première fois, Sosthène nous est présenté comme un homme vindicatif et par surcroît orgueilleux. C'est vrai qu'il porte son nom, il est puissant. Il est chef de synagogue, il a une réputation, une autorité. Et nous le retrouvons quelque temps plus tard en tant que chrétien. Et ça, ça fait plaisir parce que on n'aurait certainement pas misé sur lui qu'un jour il se convertisse. On le retrouve en tant que croyant aux côtés de l'apôtre Paul et il est même co-signataire, vous avez lu avec moi tout à l'heure, de la fameuse épître de Paul aux Corinthiens. Paul, je le rappelle, appelé à être apôtre de Jésus-Christ et le frère Sosthène. Tout de suite en introduction, en entête de la lettre. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Nous allons examiner les faits. Paul est missionnaire de l'Évangile et il est à Corinthe, où nous le rencontrons à ce moment-là. Il y a une œuvre magnifique qui s'y développe, mais qui ne va pas forcément sans susciter de la jalousie, comme le rapporte le verset 5 et le verset 6, quand il est dit ceci, « Paul se donnait tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. Les Juifs faisaient alors opposition et se livraient à des injures. » Des temps héroïques, hein, où l'Évangile, eh bien, suscitait des réactions. C'est pas comme aujourd'hui, où les gens, malheureusement, restent dans l'indifférence ou haussent les épaules. Mais à ce moment-là, il y avait certainement, eh bien, du répondant, pas de la manière dont les apôtres, certainement, ou les premiers chrétiens l'espéraient, mais il y avait des réactions. Et nous voyons que la vie de Paul a été vouée à la cause de Jésus-Christ, donc à la prédication de l'Évangile. Et c'était ses propres compatriotes, c'est-à-dire les Juifs. Ce n'étaient pas les gens des nations dans lesquelles il se déplaçait, mais c'était les Juifs eux-mêmes, Paul, Juif, et c'était ses propres concitoyens, finalement, qui lui menaient la vie dure, on peut dire. Et les Juifs, alors, faisaient à ce moment-là opposition, et ils se livraient à des injures. On sait, par d'autres textes, qu'ils ont été beaucoup plus loin que les injures, les outrages, mais jusqu'à la lapidation. À Lystre, Paul a failli y laisser sa vie. Voilà les temps apostoliques et voilà le prix à payer pour faire connaître Jésus-Christ et affranchir les hommes eh bien, de leur misère, de leur péché, de la mort tout simplement. Alors la farouche opposition des Juifs à l'égard de la nouvelle religion appelée christianisme, parce que c'est cela, est bien connue. Si l'on lit tout simplement le livre des Actes, qui est le livre d'histoire du Nouveau Testament, eh bien, on en aura une idée précise. Alors Paul, ne pouvant plus prêcher l'Évangile dans la synagogue, c'est-à-dire dans le lieu qui était réservé naturellement au culte des Juifs, va s'installer tout près de cette scie, et il nous est dit qu'il a été hébergé par là un homme qui a bien voulu lui ouvrir sa maison, et là, en toute liberté, il a pu faire finalement ce qu'il avait à faire. Et à ce moment-là, à Corinthe, un des chefs religieux se convertit à Jésus-Christ. Il y en a un qui se convertit. Un responsable, une notoriété du judaïsme, va se tourner vers Jésus-Christ. Paul en parlera, parce qu'il parlera qu'il a baptisé très peu de personnes, il en a baptisé deux ou trois. Et nous voyons que certains Corinthiens, à ce moment-là, dès le départ, vont parvenir à la foi. Toutefois, ce succès va échauffer les esprits, et particulièrement dans la communauté israélite. Ça va les rendre jaloux et fous, mais ça, on est déjà habitué, puisque quand on connaît l'histoire de la passion du Christ, eh bien, c'est ce qui s'était passé. Et nous voyons que les adversaires de ce message évangélique, vont passer aux actes. Et c'est le texte que nous avons lu tout à l'heure, il nous est dit que du temps de Galion, qui était procurateur, donc impérial, positionné en Achaïe, les Juifs se soulevèrent unanimement contre Paul et ils le menèrent devant le tribunal, en attendant que les choses s'envenimient encore davantage et peut-être de se débarrasser définitivement de lui. Mais les choses vont être tout à fait différentes. C'est vrai que quand on veut se débarrasser d'un gêneur, toutes les accusations sont bonnes. Et nous voyons qu'on va le traiter d'agitateur, on va le taxer de... enfin, les méthodes qu'il emploie, enfin, disons, il prêche tout simplement, on va dire que c'est de la subversion religieuse. Et Paul n'a pas fait autre chose que Jésus, hein. Il a annoncé la vérité, il a annoncé une vie nouvelle, il a annoncé la grâce de Dieu, et les Juifs comprenaient cela comme de la subversion. Naturellement, tous ces hommes de monde apostolique, comme Jésus l'a fait, en a montré l'exemple, certainement ont donné un bon coup de pied dans la fourmilière du statu quo religieux, et ça, ça ne plaisait pas. Je pense qu'aujourd'hui, ce serait exactement la même chose, ça ne changerait pas. Parce qu'il y a la culture, parce qu'il y a la tradition, parce qu'il y a toutes sortes de choses que les hommes, eh bien là, ont mis en place et qui n'ont rien à voir avec la vérité biblique. Et ça, ça dérange au possible. Heureusement pour l'apôtre Paul, son juge, eh bien, n'est autre que proconsul Gallion. Et on apprend, à travers les lignes, qu'il était un homme sage et soucieux de sauvegarder la paix publique, l'ordre public. Alors il va renvoyer tout le monde, il va regarder un petit peu l'assistance qui est en train de vociférer, d'hurler, de s'agiter, de mettre le désordre dans le tribunal, mais il l'avait déjà mis dans la ville auparavant, et il va renvoyer, le proconsul va renvoyer tout le monde, chacun avec ses griefs, et nous l'avons vu tout à l'heure en disant « mais ce sont des discussions qui appartiennent à votre loi, sur des noms, sur ceci et cela ». Il n'avait franchement rien à voir et rien à faire à prononcer un verdict sur cette histoire. Il leur a dit « écoutez, réglez vos affaires ensemble, hein, ça ne me concerne pas et ça ne touche en rien ». Finalement, eh bien là, les questions de l'Empire, quoi qu'il en soit. C'est alors, et c'est intéressant, c'est alors qu'il va se passer quelque chose, il va se produire un retournement de situation inattendu, comme l'explique le verset 17, où, je rappelle les choses, « Alors tous, se saisissant de Sosthène, le chef de la synagogue, le battirent devant le tribunal, sans que Gallion s'en mette en peine. » Ça, c'est quand même une drôle d'histoire, parce que Gallion, lui, doit porter, finalement, doit faire respecter la loi, et puis ce qui est juste, et puis ce qui est vrai, naturellement, il est jugé. Mais nous voyons que Sosthène, dans cette affaire, se disait, ça y est, nous tenons cet agitateur, et il va être sanctionné, on l'a amené au tribunal, et il va forcément être condamné. Je rappelle que les condamnations, à l'époque, c'était pas quelques peines de travaux d'intérêt public. Hein. Vous connaissez l'histoire, lorsqu'avec Silas, il se retrouve en prison dans un misérable cachot, et battu, frappé, humilié au possible. Les prisons de l'époque, eh bien, étaient certainement quelque chose de sordide. Alors, on voit que ce retournement va se faire et il va y avoir donc quelque chose de où il y a un message de Dieu à travers tout cela. Je dirais que c'est la version ancienne de l'arroseur arrosé. Vous connaissez, hein ? Oui, ça peut arriver. Vous avez un tuyau, vous arrosez et puis vous faites un petit trou et puis enfin, discrètement pour arroser l'arroseur. Hein ? Mais c'est ce qui se passe en quelque sorte. Et puis, ou la démonstration du proverbe, tout simplement, eh bien, tel est pris qui croyait prendre. Parce que il peut y avoir toutes sortes de choses dans l'esprit humain. Des choses mauvaises, parce que c'était l'animation de Sosthène. Il avait de mauvais mobiles et de mauvaises intentions par rapport à l'apôtre Paul. Mais nous voyons que finalement, eh bien, ça s'est retourné contre lui. Et d'une manière inattendue, et en face finalement des autorités, hein, qui étaient en place. Alors tous, se saisissant de Sosthène, je le rappelle, le chef de la synagogue, l'ont battu devant le tribunal, Et le procureur a dit, voilà, on les laisse faire, c'est leurs histoires. Et c'est ce qui s'est passé. Je voudrais dire tout de suite que Sosthène n'est certainement pas une victime. Je vous ai dit que la signification de son nom, c'est tout simplement, eh bien, puissant. Et je pense que c'était des Juifs qui étaient expatriés dans les pays, en Grèce, en Achaïe, et puis dans le monde entier. Et je pense qu'ils étaient assez prenants. Je veux dire qu'ils faisaient du prolélytisme, ils insistaient, ils faisaient des choses, comme quelquefois certaines sectes le font encore. Et pourtant, c'était la religion officielle, du judaïsme. Mais je pense qu'au bout d'un certain temps, le monde païen en avait par-dessus la tête. C'était toutes sortes de choses qui se passaient, et ce n'était pas la première fois. Et on comprend que le procurateur a dit, bah, écoutez, qu'ils s'arrangent entre eux. C'est leur affaire, on ne veut pas en entendre parler, on ne se mêlera pas de cette situation. Et je crois que lui, sa congrégation, devait certainement eh bien, porter sur les nerfs un petit peu de ce monde, hein, ce monde païen, en ce qui concerne la ville de Corinthe. Et ils avaient certainement été à l'origine, probablement peut-être, de troubles auparavant. Alors, ce qui me fait dire que Sosthène n'est pas une victime. Il n'est pas une victime. Il use d'une autorité religieuse. Et on le devine aisément, il est le principal instigateur du désordre. Et ceux qui sèment, connaissez les principes de la parole, eh bien, ils récoltent. Tout simplement. Il a semé les choses, il a semé le trouble, il a troublé l'ordre public dans cette ville, avec toutes sortes de questions, toutes sortes d'agitations, s'en prenant à Paul et puis à tout ce qui pouvait être fait dans ce cadre. Alors à ce moment-là, eh bien, c'est l'arroseur arrosé. Voilà un des principes les plus élémentaires que nous fournit Jésus dans le sermon sur la montagne. Et j'aimerais citer ce passage, il est dans Matthieu chapitre 7, où il est dit ceci, « On vous jugera du jugement dont vous jugez et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même. » Eh bien pour eux. C'est logique. Il me semble que Jésus nous donne une leçon de première importance parce qu'on ne s'imagine pas et on ne prend pas forcément toute la dimension que lorsque l'on juge injustement, lorsque l'on envoie toutes sortes d'appréciations, mais non fondées, alors à ce moment-là, c'est peut-être oublié des hommes, oui ou non, tout dépend de la faculté de pardonner, mais c'est peut-être oublié, mais toujours est-il qu'il y a certainement une inscription dans le ciel où Dieu, surtout quand il s'agit d'enfants de Dieu, où Dieu à un moment ou à un autre, quelquefois longtemps après, nous dit voilà, la manière dont tu as fait ceci et cela, eh bien maintenant, tu vas l'apprendre. Et tu vas l'apprendre, on va te le faire par les mêmes personnes, naturellement, pas ceux que l'on a offusqués ou blessés, mais ça viendra d'une autre manière. Parce que Dieu ne renonce pas à nous donner les leçons essentielles et primordiales pour que nous avancions dans notre foi. Et Jésus a raison. Et si nous voulons, finalement, eh bien que les gens nous fassent du bien, si nous voulons que les gens nous manifestent de la bienveillance, il faut que nous soyons aussi bienveillants pour les autres. Et là, or, Sosthène n'était absolument pas bienveillant par rapport, c'était pourtant son compatriote. Il était juif, ils étaient juifs tous les deux. Parce qu'il faut dire que Sosthène s'en est pris à l'œuvre de Dieu. Lui, il était persuadé que l'œuvre de Dieu, c'était sa synagogue. C'était sa fonction de responsable de synagogue, de responsable religieux. C'était son titre, probablement. Alors il s'était dit, bien moi, Dieu, c'est cela. Le Dieu d'Israël que je représente, c'est pas autre chose. Je vous ferai rappeler que Paul a eu la même attitude avant de se convertir. Et il a appris la leçon ensuite. Et nous constatons que cet homme du nom de Sosthène s'en est pris à l'œuvre de Dieu, mais il s'en est pris au ministère que Dieu avait donné dans la personne de Paul. Dieu avait appelé Paul, et il l'avait prévenu quand il l'avait appelé, « Tu verras la peine que tu auras, les souffrances pour, eh bien, la cause de mon nom. » Paul était bien au courant de ce qu'il attendait, mais il a vécu aussi des choses très très difficiles. Et les plus grandes oppositions, ce n'était pas ceux du dehors, oh, il a eu des problèmes, mais c'était particulièrement celui dedans, c'est-à-dire les Juifs, ses concitoyens. Alors, quelle humiliante leçon pour un personnage de son envergure. Je parle de Sosthène. Imaginez-vous que là, la foule s'est ruée vers lui et ils lui ont montré les poings. Et je ne sais pas s'il est tombé par terre, je ne sais pas s'il a roulé les marches du tribunal, mais imaginez-vous, monsieur Sosthène, qui roule, qui tombe, et qui va rentrer chez lui avec des ecchymoses, avec des bleus, avec toutes sortes de choses. Ah, il avait bonne mine. Vous savez, il y a une parole également dans l'Ancien Testament qui nous dit « Ne sois pas juste à l'excès de peur que tu ne te détruises ». Alors, ça semble quelquefois très spirituel de pousser les choses très très loin, mais ça ne l'est pas. L'équilibre, la modération, par la vie de l'Esprit, parce que le Saint-Esprit nous sait très bien où il veut nous conduire et comment il veut nous diriger. Alors, un chef de synagogue pris à partie par la foule est battu publiquement. Une leçon morale de la plus haute importance maintenant peut être donnée, c'est que la vie nous apprend que l'orgueil détourne de la vie spirituelle. Et vous le savez parce que c'est écrit de nombreuses fois dans l'Écriture sainte. Je dis bien que l'orgueil détourne de la vie spirituelle alors que l'adversité, que la réprimande ou la correction l'y ramène. C'est-à-dire, finalement, le profit de la souffrance et de l'humiliation. Et il y a parfois des expériences que nous faisons, elles sont amères, elles sont parfois difficiles à accepter, mais avec le temps, on s'aperçoit qu'elles étaient nécessaires. Et n'allons pas dire que les autres étaient des méchants, ceux qui nous ont donné la leçon. N'allons pas dire qu'ils étaient mauvais. Mais parfois, nous passons à certaines conditions où Dieu nous dit maintenant, c'est ton tour. Voilà. Mais quand Dieu fait cela, c'est pas purement gratuit de dire, voilà, tu mérites une correction, tu vas l'avoir. Non, c'est pour nous amener plus haut et plus loin. Et c'est ce qui va se passer, c'est ce que nous allons découvrir. Hein. C'est qu'il va comprendre. Cette forme de rappel à la raison est souvent de fois orchestrée par la main de Dieu, une main invisible, mais qui sait où il nous conduit. Il sait où il nous mène, le Seigneur. Et je dis en aucune manière, c'est pour nous détruire. Au contraire, c'est pour nous enlever, nous délivrer de nos scories, de nos habitudes de pensée de telle et telle manière. C'est pour faire le nettoyage dans nos cœurs, dans nos mobiles, de nous amener tout simplement à la sanctification. Parce que la sanctification, elle passe par là. On est quelquefois tellement convaincu de notre fait, tellement convaincu que nous avons raison, tellement convaincu que les autres ont tort. Eh oui, mais ça, c'est pas gagné d'avance. Parce que nous, on ne sait pas tout. Et les moyens dont Dieu dispose pour ramener à la sagesse les hommes sont fort nombreux. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a des circonstances, des situations, des accidents, des incidents de la vie, où Dieu parle et nous donne des leçons essentielles. Vous connaissez cette parole où il nous est dit que Dieu humilie les hommes pour les arracher à la mort. C'est dans Job, chapitre 33, entre autres. Dans le psaume 119, il est dit ceci, et vous le savez, « Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. » On est tous passés par là. Et on y passera encore, vraisemblablement. Et il a raison, le psalmiste, quand il dit « Mais Dieu m'a conduit au désert pour parler à mon cœur », nous dit le prophète Osée, me semble-t-il. Dans Lamentation de Jérémie, au chapitre 3, il dit ceci « Dieu mettra sa bouche dans la poussière, et ce n'est pas volontiers que Dieu humilie les enfants des hommes. » Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonnée? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Et s'il y a quelque chose qui nous renvoie à nous-mêmes, eh bien, c'est de savoir où nous en sommes nous-mêmes par rapport à notre vie, notre mentalité, notre façon de réagir, nos réactivités, notre caractère épidermique, colérique, intempérant et impétueux, et de pouvoir d'abord... Eh bien, au regard de la parole de Dieu, savoir où nous en sommes, avant de jeter l'anathème sur les autres. À ce moment-là, il faut mieux rien dire. Vous dites rien. Et puis vous laissez Dieu régler le problème. Parce que nous avons une faculté formidable, c'est de prier pour les autres. Pas prier pour qu'ils soient condamnés ni jugés. Prier pour qu'ils soient sauvés. Sauvés peut-être d'eux-mêmes. La tendance naturelle qui porte l'homme au mal le rend insensé, nous le voyons avec Sosthène, intolérant, parfois cruel, et il faut hélas le concours de circonstances pénibles pour lui ouvrir les yeux. Vous vous souvenez ce qui est arrivé à Paul, à Damas, sur le chemin de Damas? Il était fou, il était complètement imbu de sa mission, il avait raison, absolument raison, personne n'aurait pu avoir plus raison que lui. Et à un moment donné, il a fallu qu'il tombe de son cheval, qu'il ramasse la poussière, et que là, Dieu lui ouvre tout à nouveau les yeux pour lui montrer qu'il était en train de faire fausse route. Et pourtant, vous lui auriez dit quelques instants auparavant, eh bien, qu'il était contre finalement Dieu, il aurait dit, mais certainement pas, ce sont les autres, mais pas moi. Moi, j'ai raison. Et là, il nous a dit que les écailles sont tombées de ses yeux, et il a vu. Il a vu la réalité de l'amour de Dieu pour lui. Il a vu la grâce qui lui était manifestée, la miséricorde dont il était bénéficiaire à ce moment-là. Et il a pu se relever. Et de Saul de Tarse, il est devenu Paul. L'apôtre Paul. Et ça, c'est la mésaventure de Sosthène. Permettez-moi, dans un premier temps, avant qu'il devienne un autre personnage, eh bien moi je l'ai appelé Sosthène l'orgueilleux, qui se voit infliger une sévère correction sans que Gallion n'intervienne, alors qu'il aurait pu intervenir et puis séparer tout le monde. Mais, quelque temps plus tard, Sosthène va en comprendre le bien fondé. Et ce bien fondé est résumé à travers un autre texte qu'il est bon de citer ce matin. C'est dans le livre des Hébreux. Et vous le connaissez parce que vous l'avez certainement lu à plusieurs reprises, au chapitre 12 et au verset 11, il est dit ceci. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Ouais. Les uns et les autres, au moment de notre rencontre avec Jésus-Christ, de notre conversion, est-ce que nous ne sommes pas tombés, entre guillemets, de notre cheval, que nous avons mordu la poussière et que nos yeux se sont ouverts? Ouais. Et nous ne pouvons pas dire que ce n'est pas Dieu qui l'a permis, parce qu'il l'a réellement permis. Et là, nous avons vécu des choses qui nous ont amené à nous repentir, à nous convertir et à naître de nouveau, à être baptisés du Saint-Esprit. Parce que nous étions convaincus de notre fait à l'époque, hein. Ça c'est certain. Voilà, un exemple. Je ferai une remarque avant d'aller plus loin, c'est que à quiconque sait reconnaître la main de Dieu dans sa vie au travers des épreuves, des échecs, des revers de fortune, des déceptions, des humiliations, des contrariétés, parfois où nous avons été laissés pour compte, où nous avons été trahis dans l'amitié ou dans l'amour, eh oui, alors lorsque nous réagissons en conséquence, c'est-à-dire positivement, et ça veut dire à s'humilier sincèrement, eh bien moi je vous dis qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, il y a de l'espoir pour les hommes et les femmes qui viennent entendre l'Évangile pour les premières fois, la première fois, et qui viennent entendre cet appel de Dieu, et quand lorsqu'il y a un mouvement de repentance, de contrition, et qu'ils se tournent vers Dieu en disant « Sauve-moi », alors il y a de l'espoir. Quand un chrétien, et nous avons tous nos failles, et nous avons tous nos défauts, et nous faisons tous des erreurs, d'une manière ou d'une autre, et quand un chrétien, sous l'action du Saint-Esprit, à travers la parole, et que là, à ce moment-là, nous nous ressaisissons, nous disons, mais Seigneur, oui, je me suis trompé. J'ai fait une erreur, j'étais trop loin, j'étais excessif, j'ai fait du mal. Alors je dis qu'à ce moment-là, il y a de l'espoir. Ce frère et cette sœur vont sortir de prison. Autrement, ils restent en prison. Ce n'est pas la prison des autres, ce n'est pas la prison de l'Église, c'est la prison qu'ils se sont infligée eux-mêmes. Il y a raison d'espérer. Mais faut-il savoir réfléchir? Toute la question est là. Et laisser Dieu nous amener à la réflexion. Et sa parole a été donnée pour ça. L'action du Saint-Esprit a été donnée pour ça. Les dons spirituels, les paroles de connaissance sont données pour ça. Il existe des questions et des interrogations négatives, mais il en est d'autres qui sont propres à nous amener à Dieu, c'est-à-dire au but que Dieu s'est assigné. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 16 et au verset 20, il est dit « Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur ». Dans Ecclésiaste, chapitre 7 et au verset 4, il est dit « Au jour du bonheur, sois heureux, au jour du malheur, réfléchis ». Eh oui, réfléchis. C'est bien le prophète Samuel qui ira voir le roi Saül. Et Saül, vous connaissez le personnage. Donc le prophète ira voir le roi Saül et lui dira « Arrête-toi maintenant et je te ferai entendre la parole de Dieu ». Ça n'a pas trop plu à Saül. Hein. Mais en tous les cas, il a quand même entendu la parole. Après, il en a fait ce qu'il a voulu. Ça, c'est certain. Savoir s'arrêter, mes frères et sœurs. Nous sommes dans un siècle de vitesse, un siècle de trépidation, un siècle de course, finalement, course folle, on peut le dire. Nous sommes dans un rythme endiablé. Et nous vivons dans ce monde, même nous, enfants de Dieu. Et je dis que ça constitue tout ça un danger, parce que Dieu dit « Arrête parce que je veux te parler ». Et c'est parce que Dieu a quelque chose à nous dire, et quelque chose, si nous voulons bien l'écouter, il a quelque chose à faire avec nous. Moi, je crois en un Dieu de grâce et de miséricorde. Ouais. Parce que même dans le jugement, je le répète, hein, vous l'avez souvent entendu, même dans le jugement le plus rigoureux, il y a encore contenu la grâce rétablissante de Dieu. Vous y croyez à cela? Ben ça, c'est le message de l'Évangile. S'arrêter et réfléchir. Il y a une grande différence, je dirais une différence notoire, entre David et Saül. Devant une faute caractérisée que vous connaissez, celle de David, il s'humilie. Devant un état d'orgueil permanent qui est celui de Saül, il se cabre. Oui. Il se cabre, Saül, et il ira jusqu'au bout. Hein. Rien à faire pour lui. Hein. Et ça, c'est quand même quelque chose de terrible. Peut-être pourra-t-on objecter, je n'ai pas le temps de réfléchir. Ou alors, on ne veut pas réfléchir, et pourtant, Dieu a quelque chose à nous communiquer, à nous dire, ça c'est sûr. C'est vrai que dans les temps où tout va bien, où somme toute, les choses ne vont pas trop mal, nous ne prêtons pas trop attention à Dieu. Alors, comment faut-il qu'il fasse pour nous parler? Alors, s'il ne peut pas nous parler par sa parole, puisque nous ne la lisons pas ou vaguement, si nous ne prenons pas le contact de cette communion permanente ou quotidienne, en tous les cas, que l'on appelle la prière, s'il ne peut pas nous parler par la bouche de frères ou de sœurs qui sont autour de nous et qui nous aiment, comment va-t-il nous parler? Vous connaissez, hein, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend pas garde. Eh bien, il va parler par des événements, comme nous l'avons lu ce matin, comme en ce qui concerne Sosthène. Et au lieu de rentrer dans cette dimension de contact avec Dieu, dans la douceur, paisiblement, dans des dispositions qui vont finalement eh bien, être somme toute agréables, parce que le Seigneur nous donne quand même, dans sa grâce et dans son amour, ce qui est agréable et le bien-être, alors nous passerons forcément par un mot redouté, par une situation que nous répugnons, c'est-à-dire la souffrance. Que de pourquoi ce mot redoutable soulève? Souffrir. Souffrir. Un Dieu d'amour permet-il que ses créatures souffrent? Ça, c'est la question de toujours. Comment se fait-il qu'autour de nous, les gens souffrent? Comment se fait-il que les frères et les sœurs souffrent dans l'Église? Parce que Dieu est amour. On se heurte et on se bute. Mais il faut dépasser ce stade. Il ne faut pas être restrictif, hein, dans notre raisonnement. Il faut dépasser ce stade. Voyez, une chose que je veux conserver jusqu'au bout, c'est que Dieu aime et que sa miséricorde prévaut sur le jugement. C'est pas moi qui l'ai inventé, hein. C'est dans les épîtres de Pierre. La réalité du mal viendrait-elle nous faire douter de l'existence même de Dieu? Et je souligne, de son amour. Beaucoup pensent, et je voudrais quand même mettre en garde mes frères et mes sœurs, beaucoup pensent que Dieu est responsable de ce qui nous arrive. Non, il n'est pas responsable. Maintenant, nous sommes parfois les artisans de nos pleurs et de nos larmes, et il va se servir justement de nos ouvrages ou de nos œuvres pour nous dire, voilà, maintenant, je reprends les choses en sous-main, je vais te conduire par le Saint-Esprit, pas à pas. Ça sera peut-être plus long que ce que ça aurait été autrement si tu avais été docile, mais je vais te reprendre en sous-main et je vais te conduire là où je veux que tu parviennes, c'est-à-dire que tu sois l'homme de Dieu ou la femme de Dieu que j'ai prévu pour toi, que tu sois. Alors la souffrance naturelle. Mais Dieu n'est pas responsable. Devant les erreurs que nous faisons, il va y avoir une exploitation terrible contre nous, c'est celle de l'adversaire, ça vous pouvez être sûr. Mais Dieu va essayer de contrer les choses, c'est pour ça que nous disons Dieu change le mal en bien. Mais il y aura une leçon forcément. Dieu n'aurait-il pas un autre message que de vouloir apprendre simplement? Est-ce qu'il n'aurait pas une autre version à nous faire entendre, autre que nos révoltes dès qu'il nous touche un petit peu, nos accusations sur sa personne ou sur les autres, notre incurable incrédulité? On en a parlé la semaine dernière, ça c'est quelque chose, hein. Ça nous tient véritablement au fond, c'est viscéral, hein. Cette incrédulité. L'homme ne souffre pas à cause de Dieu, mais il est la victime, nous dit la Bible, de son propre péché et le mal qui est en lui. Il a donné, et ça depuis les temps premiers, les temps d'Éden, il a donné des droits sur la vie de celui qui en est l'auteur du mal. Vous avez identifié l'initiateur, le corrupteur universel de l'espèce humaine. Et avec tout son cortège que nous connaissons hélas, la mort, la maladie, les séparations, les crimes, les guerres, le vice, etc. etc. Et c'est là que nous devrions nous méfier, parce qu'il y a une exploitation derrière tout ça. Alors Dieu parle à l'homme à travers ce que je vais appeler maintenant le puits de la souffrance, de l'humiliation, dans lequel ce même homme est tombé pour lui révéler que le pire serait encore de se trouver bien, finalement au fond du puits, c'est-à-dire dans ce monde où le mal règne en maître, et de dire, eh bien, nous sommes comme des poissons dans l'eau, dans toutes ces choses, se complaisant dans la mort, dans les sentiments mauvais, dans le mensonge, dans l'injustice, dans toutes sortes de choses, ça serait véritablement le drame, et c'est le drame de l'humanité. Mais par contre, l'homme, dans sa déchéance, s'il restait dans cet état de complaisance, achèverait de s'y corrompre et de s'y perdre définitivement. C'est pourquoi Dieu vient nous tendre la corde pour nous ressortir du puits. Et cette sortie du puits, eh bien, ça fait mal. Ça fait de la peine. Ça crée finalement des douleurs. Mais il nous retire à la lumière. Parce que si nous restons au fond, eh bien, nous sommes perdus. Mais si nous saisissons la main de Dieu, eh bien, il va falloir qu'il nous prenne et qu'il nous hisse. Et là, ça tire, hein. Ça fait mal. Tous nos maux et chagrins sont là pour nous avertir, dans le but de nous arrêter et nous porter à la réflexion. Au jour du bonheur, réjouis-toi. Au jour du malheur, réfléchis. Combien d'hommes et de femmes, les chrétiens, ont été plaqués sur un lit parce qu'ils ont peut-être été excessifs dans le travail. Ils ont finalement, eh bien, dilapidé leurs forces. Ils se sont trouvés, soit par l'accident ou la maladie, eh bien là, arrêtés. Alors qu'ils étaient remplis de force et d'énergie, et pendant des mois et des mois de rétablissement, et là, ils ont eu le temps de réfléchir. C'est terrible de dire, eh bien voilà, maintenant, je ne revivrai plus ce que j'ai vécu. Parce que c'est destructeur. Et telle est une sorte de sonnette d'alarme qui nous permet finalement de crier à Dieu dans une situation anormale, dans une situation voire fatale, si nous n'y prenons pas garde. Attends, Quel triste monde que le nôtre, et je ne le noircis pas, où les hommes souffrent, se déchirent, s'entretuent, se haïssent, sans comprendre la portée réelle de leurs actes. Et on l'a tous les jours devant nous. Les médias sont là pour nous rapporter, mais il ne suffit pas tout simplement de regarder dans votre rue, dans votre quartier, dans vos voisins, peut-être même dans votre famille. De dire que c'est terrible de voir ce qui se fait, ce qui s'y passe, en sachant que pertinemment, il va y avoir une facture à payer. On ne peut pas faire autrement. Combien sont-ils ceux qui réfléchissent, qui ont une vision au-delà, finalement, eh bien, de ce qui est à notre portée, notre compréhension humaine, et d'avoir une dimension qui s'élève un petit peu plus dans cette sphère de la moralité, ou surtout dans la spiritualité. Le sens profond des choses de la vie, espérant voir le mal à ce moment-là qui sera changé en bien, et de rencontrer le Dieu de notre salut et le Dieu de notre délivrance. Vous connaissez le petit cœur ? Il est le Dieu de mon salut, il est le Dieu de ma délivrance. C'est par échelon. Et c'est quelque chose que Dieu nous enseigne. Et ça s'appelle la foi, tout simplement. À quelques niveaux, mais c'est la foi. Je voudrais simplement signaler que Sostem était un homme qui se disait un homme de Dieu, responsable d'une synagogue. Mais il avait la foi dans ses capacités à lui de régler les problèmes, et pas la foi de s'en remettre au Seigneur pour que Dieu règle les problèmes. Remarquez, il aurait été déçu, parce que s'il avait dit « Seigneur, eh bien, tu me détruis cet homme-là, ce fameux Paul hein, », ça aurait été le contraire. Dieu aurait confirmé, naturellement, le ministère de Paul. Mais bon, peu importe. La souffrance est une dramatique réalité. Elle est parfois, hélas, le moyen de la dernière chance, l'ultime garde-fou dont Dieu use pour provoquer chez ses créatures la réaction salutaire. Très rapidement, avant de terminer, nous allons concrétiser ce qui a été dit ce matin, et simplement, nous allons examiner quelques exemples bibliques de souffrances ou d'expériences malheureuses qui ont conduit certains au salut, je dis bien au salut. Je retiens le positif. C'est le cas de Job. Le cas de Job, il rentre à un moment donné, après avoir été déclaré par Dieu un homme intègre et juste, il va rentrer dans une adversité sans nom, une adversité complète et totale. Perte de ses enfants, perte de ses biens, perte de ses amis, perte de sa santé, tout va y passer. Mais quand il en ressortira, c'est-à-dire entre le chapitre 1 et 2 du livre de Job et au chapitre 42, ça fait quand même quelques chapitres entre les deux, il va être délivré et guéri, libéré de sa propre justice. Tout le long de ce livre, il se dit « Mais moi, je suis juste, je suis juste, je suis juste. » Dieu va envoyer un jeune homme qui s'appelle Eliu, et il va lui dire « Non, tu te trompes, tu n'es pas juste. La seule justice qui soit, c'est la grâce de Dieu, tout simplement. » Et là, il va dire « Je prends le sac et la cendre, et je me repens devant toi. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu, c'est-à-dire j'en ai fait l'expérience. » C'est ça. Il a été délivré. Parce qu'avec la propre justice, on peut faire beaucoup de mal à l'œuvre de Dieu et aux autres. J'espère que je ne vous choque pas. C'est aussi le cas de Naaman, le Syrien. Eh oui, lui aussi a fait son expérience comme Sostène. C'était un homme qui était élevé en dignité. Il était général de l'armée du roi de Syrie. Imaginez-vous, c'est quand même pas la dernière place. Et tout à coup, il a été frappé par une maladie qui s'appelle la lèpre. Et par un concours de circonstances, Dieu va lui le mettre sur le chemin d'un témoignage extraordinaire où il peut être délivré, guéri miraculeusement de sa lèpre. Chose qu'il ne pouvait pas se comprendre et se concevoir à l'époque. Mais il va falloir qu'il passe par l'humiliation de l'obéissance, c'est-à-dire sur la parole du prophète, aller se tremper sept fois dans les eaux d'un fleuve étranger, en l'occurrence le Jourdain. Et tant qu'il ne l'aura pas fait, il restera l'épreuve. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, il dit « moi peut-être j'arrête », cinq fois j'y vais plus, six fois, ah certainement pas, et sept fois, il ressort parce qu'il est jusqu'au bout hein, quand même. Il ressort, il est guéri. L'obéissance, la discipline de l'obéissance. Et là, il a été délivré, non pas de la propre justice, bien qu'il était certainement, mais il était délivré de son orgueil. Et vous avez souvenance de cette parole. Il nous est dit que l'orgueil précède la ruine et éternelle. L'insatisfaction maintenant d'un cœur vide, l'insatisfaction permanente d'un cœur vide, c'est la Samaritaine. Eh oui, elle est humiliée, mais pas de la même manière. La Samaritaine était une femme malheureuse et déçue. C'était une femme de vie, on pourrait dire, légère. Et Dieu s'en est servi en lui révélant ce qu'elle avait dans le fond de son cœur et qu'elle n'avait pas dit. Va chercher ton mari. Ah, bon, qu'est-ce que je fais ? Jésus lui dit, mais attends, tu ne vas pas les faire venir tous. Et elle va avouer à ce moment-là. Parce qu'elle va être percutée dans sa conscience. Et elle va reconnaître la vérité. Qu'elle n'a pas de mari, qu'elle n'en a jamais eu. Mais qu'elle a eu des amants, tout simplement. Et que là, maintenant, eh bien, le vide qu'elle a dans son cœur, ce trou béant, elle ne le trouvera pas sur cette voie-là. Elle a besoin que les fleuves d'eau vive descendent dans son cœur et dans son âme et dans sa conscience. Pour être rafraîchie, pour être transformée, c'est ce qu'elle accepte. Elle a été humiliée pour avoir entendu la vérité sur sa vie, qui était une vie quand même, entre parenthèses, immorale. Et elle l'a acceptée. Elle a dit, maintenant, moi, je ne veux plus vivre comme ça. Elle a été sauvée. Les revers soudains de fortune. Une situation qui bascule. Le geôlier de Philippe, l'homme fort, le baroudeur, le soldat qui suivait les armées romaines, qui finissait certainement sa carrière dans les misérables cachots de la ville de Philippe, en Macédoine. Et là, il se disait, il n'y en a pas un qui m'échappera, hein. Je tiens les clés des portes de fer. Et à un moment donné, il y a deux chrétiens qui sont là, il y a Paul et Silas. Un tremblement de terre. Et devant le désespoir de ne pouvoir accomplir sa mission, parce que devant un tremblement de terre, on ne peut pas faire grand-chose, il voit toutes les portes s'ouvrir, tous les prisonniers s'éparpiller dans tous les sens. Il dit, il ne me reste plus qu'une chose à faire. Il saisit son épée et il est prêt à se l'enfoncer à travers le corps. À ce moment-là, il y a Paul qui lui dit, ne te fais pas de mal. Il nous est dit, il apporta la lumière. Ce n'était pas seulement la lumière pour éclairer ce sinistre cachot, c'était la lumière au fond de son cœur. Il était prêt au suicide. Et oui, situation qui bascule. Quelquefois, Dieu permet qu'il y ait des situations qui basculent pour nous ouvrir les yeux et nous amener à ne pas continuer à nous perdre comme nous nous perdons. Merci Seigneur pour toutes ces choses. Ouais. Un accident. Vous connaissez celui qui s'appelle Heureux ? Parce que c'est la traduction, l'étymologie de son nom. Heureux, Étichus. Ouais, il n'était pas heureux ce jour-là. Hein. Il était assis entre deux chaises. Eh oui, et bien quelquefois, il faut s'apercevoir que quand on est assis entre deux chaises, elles peuvent s'écarter et vous retrouver derrière par terre. De toute façon, on peut dire les choses. Ah oui. Parce qu'on ne peut pas être assuré quand on est en déséquilibre d'un côté ou d'un autre. Il faut qu'on prenne position à un moment donné. Eh bien, Dieu a permis qu'il passe, finalement, assis sur le rebord de la fenêtre, de la pièce, la chambre où il était, jusque deux étages plus bas, c'est-à-dire sur le pavé de la rue. Et de faire l'expérience. Alors il est descendu très vite, il est remonté aussi vite, mais quand il est descendu, quand il est arrivé par terre, il était mort, quand il est remonté, il était vivant. Voilà. Les situations, la privation de la liberté. Cet esclave qui s'appelle Onésime, qui avait fui la maison de son maître, va croire que finalement, eh bien, après sa prison, il sera libre, mais définitivement, ah, pas de chance, enfin, il se trouve en prison avec l'apôtre Paul, au même endroit, dans la même geôle. Qu'est-ce que fait Paul ? Il lui prêche l'évangile, Onésime se convertit, et il devient un chrétien. Fallait-il qu'il fuit ? Fallait-il qu'il se retrouve en prison ? Qu'il se retrouve avec Paul, et que là, eh bien finalement, il découvre la vie. Le fils prodigue, c'est fictif, mais c'est quand même une réalité qui est certainement plus proche de tout le reste. Le fils prodigue, s'il n'avait jamais souffert cruellement, je dis bien, cruellement de sa folie, de ses choix, il ne serait jamais revenu à la maison paternelle. Il est parti, la bouche en cœur, en disant « À moi la vie, à moi la belle vie ». Pour moi la vie va commencer, vous connaissez, je ne vais pas vous chanter toute la chanson. Hein. Mais toujours est-il qu'il est allé, il a vu, il a connu, il a goûté, il s'en est mis plein la tête ou plein le cœur, et à un moment donné, il s'est retrouvé à garder des pourceaux. Et là, il avait faim. Il a souffert, et Dieu a permis qu'il souffre pendant certainement des jours, pendant des semaines, pendant des mois. Et là, avec la faim qui le tenaillait, il s'est dit, « J'irai vers mon père, je lui demanderai pardon, qu'il n'est plus digne d'être son fils, s'il veut bien m'accepter tout à nouveau. Ça, c'est l'évangile, hein. On est d'accord, hein. Mais parce qu'il a souffert. Voilà. Je termine avec des exemples. On en arrive à la conclusion. Notre misère morale, parfois notre méchanceté, notre aveuglement, eh bien Dieu s'en sert pour nous amener à lui. Et Sosthène a été là, dans ces circonstances, sur les marches du tribunal, a été confondu, il a été confus, il a été honteux par la sévère humiliation que les gens de la ville de Corinthe lui ont fait subir. Et il découvre subitement la triste réalité de son cœur mauvais et l'ampleur du mal qu'il a pu faire à l'œuvre de Dieu et aux serviteurs de Dieu. Il cite Paul. Là, il a pris conscience. Il a fallu qu'il y ait comme un électrochoc pour lui ouvrir les yeux. Alors ses réactions n'ont pas tardé. Il s'est repenti. Il a imploré le pardon. Il se convertit à Jésus-Christ et il devient, c'est peu, non, c'est beaucoup, il devient à son tour un véritable croyant. J'aimerais donner simplement une illustration. Je l'avais déjà donnée, mais je voudrais la rappeler ce matin parce que c'est une belle image. Simplement pour illustrer cela, comment Dieu procède. Une histoire que j'ai déjà racontée, mais comme il y a toujours des gens qui nous rejoignent, ils vont peut-être l'entendre pour la première fois. Ça se passe dans l'Italie de la Renaissance, il y a 4-5 siècles. Un artiste renommé est en train de peindre une magnifique fresque sur le fronton d'une basilique. Alors, il est entre ciel et terre. Et cet homme va travailler pendant des semaines, pendant des mois. Et c'est quelque chose de grandiose et de magnifique. Alors, le chef-d'œuvre terminé, il va faire venir auprès de lui sur les échafaudages très très hauts, hein, il va faire venir un critique ou la critique, un homme qui va monter pour critiquer son travail, pour apprécier son travail de près. Alors l'artiste et puis le juge, on peut dire ça comme ça, vont se hisser jusqu'au haut de l'édifice pour reconnaître eh bien, le travail qui a été fait, les talents, les dons de l'artiste. Alors à ce moment-là, le critique d'art, lorsqu'il est arrivé près de la peinture, de la fresque, ne tarit pas d'éloge, parce que de le voir de loin, c'est quelque chose, mais de le voir de près, c'est encore tout le talent du maître artiste est là. Alors il ne tarit pas d'éloge, alors à ce moment-là, l'artiste qui a fait le travail, il est en train d'exulter, il est fier, il est superbe. Il est gonflé, bouffi d'orgueil. Il se dit, mais si on me dit ça, mais c'est que je suis un grand homme. Hein, j'ai un talent, j'ai quelque chose de formidable. Mais il oublie une chose. Il oublie sa position dangereuse. Il est sur des planches entre ciel et terre. Quelque chose de très fragile. Alors, il recule de plus en plus. L'artiste recule de plus en plus pour, eh bien là, admirer ce qu'il a fait. Il recule sur l'échafaudage. Et il se trouve à quelques centimètres, finalement, du vide à un moment donné. Le critique se retourne et il s'aperçoit finalement du danger que court son compagnon. Et au lieu de crier et de se précipiter vers lui pour le rattraper, il va faire une chose étrange. Une chose inconcevable, mais qui montre bien que c'est un petit peu ce que Dieu fait dans nos vies à chacun. C'est-à-dire qu'il saisit promptement les pinceaux qui sont là à côté. Il remplit les pinceaux de peinture et il s'élance et il va s'acharner sur la fresque en la mutilant. Alors à ce moment-là, vous savez qu'il va y avoir une réaction. C'est que le peintre, dans un mouvement de réflexe, se porte en avant. Parce qu'il était parti en arrière, hein, vous le savez. Hein. Il aurait continué, il était plus vivant. Il n'aurait pas vu longtemps son œuvre. Alors il se porte en avant pour éclairer celui qui est en train d'endommager finalement son chef-d'œuvre. Mais par ce geste, par ce geste de folie, eh bien là, il lui sauve la vie. Et croyez bien que quelquefois, on peut véritablement comprendre ce que Paul écrit dans Romains, que la folie de Dieu est plus sage que la folie des hommes. Dieu détruit pour sauver. Mais attendez, j'ai pas dit ce qu'il détruisait, hein. Dieu détruit pour sauver. Il ne détruit pas l'homme, il ne détruit pas la personnalité, il ne détruit pas sa création dans notre créature. Il détruit l'orgueil, il détruit l'égarement dû au péché qui nous fait aller à reculons, comme cet homme dans l'histoire. C'est-à-dire aller vers le vide, aller vers le néant. Et l'humiliation nous fait aller de l'avant pour nous préserver de la chute. Je dirais simplement un dernier mot, c'est que ça sera la leçon finale, c'est que Dieu est parfois forcé pour notre sauvegarde et notre salut de détruire nos illusions. Et on y tient à nos illusions, hein. Même quand elles sont vues de tout le monde, qu'elles sont connues comme étant quelque chose de vain et dit, enfin où il n'y a pas de sens, alors il veut détruire nos illusions pour nous amener véritablement être sauvé. Dieu est capable de briser nos rêves. Oui, bien sûr qu'il est capable. Parce qu'il y a des rêves qui vont se terminer en cauchemar, et il le sait. Il veut détruire notre orgueil. En d'autres termes, il veut détruire une chose qui est le propre de toute de l'espèce humaine, c'est-à-dire notre péché. Dans le psaume 107, il est dit ceci: « Les insensés par leur conduite coupables et par leurs iniquités s'étaient rendus malheureux. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leur angoisse, il envoya sa parole et il les guérit. » Dieu veut le salut de chacun, mais le chemin pour y parvenir n'est pas toujours celui que nous pensons. Ouais. Parfois, il faut passer par les affronts, les accidents de l'existence de la vie. Mais Dieu est là, Dieu est avec nous, et Dieu veut nous conduire pour que nous puissions devenir comme il est, c'est-à-dire sages. Que nous devenions perspicaces, que nous devenions des hommes de foi, qui lui faisons confiance même quand on ne comprend pas où il nous conduit, là où il nous mène. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier quelques instants et demander à Dieu sa grâce et sa bénédiction. Je demanderai à Frédéric si tu veux bien élever ta voix, simplement pour conclure ce message. Et puis je demanderai également à notre frère Patrick